Je vais commencer par citer Martin Heidegger dans Acheminement vers la parole. Le premier texte s'appelle La parole. Il dit ceci. L'être humain parle. Nous parlons éveillés. Nous parlons en rêve. Nous parlons sans cesse, même quand nous ne proférons aucune parole, et que nous ne faisons qu'écouter ou lire. Nous parlons même si.
Bienvenue, chers auditeurs, sur Delta FM 90.2, la radio du lycée pilote innovant international. Nous vous retrouvons aujourd'hui dans l'émission Parole d'éthique pour aborder la question essentielle aux yeux de tous, l'euthanasie. L'euthanasie. Tout d'abord, de quoi s'agit-il ? C'est assez difficile de définir le terme euthanasie. En effet, les définitions varient d'un dictionnaire à l'autre. Le Petit Larousse parle d'un acte d'un médecin qui provoque la mort d'un malade incurable pour abréger ses souffrances ou son agonie, en ajoutant que c'est illégal dans la plupart des pays. Les autres dictionnaires insistent plus sur le ressenti du patient. Le but est alors de le soulager des souffrances extrêmes et d'arrêter une longue agonie. Étymologiquement, cependant, euthanasie vient du grec euthanatos et signifie mort douce et sans souffrance. Dans cette première partie, notre journaliste, Juliette Estard, nous expliquera le point de vue officiel de la France sur l'euthanasie. Et nous verrons que ces dernières années, une volonté de changement est apparue parmi la majorité des Français. Ce sera l'occasion pour nous de débattre sur les conditions sous lesquelles nous devrions légaliser l'euthanasie en France. Pour cela, nous serons accompagnés tout au long de l'émission par Laurence Dutreuil, un membre de l'association ADMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité, par Isabelle Monjary, un médecin du CHU de Poitiers, et par Maître Laetitia Després, avocat au barreau de Poitiers. Maintenant, nous allons laisser la parole à notre journaliste, Juliette Estard, qui va nous expliquer le point de vue officiel de la France sur l'euthanasie. La parole est à vous.
L'euthanasie active, c'est administrer des substances dans le but de mettre fin à la vie. Le problème de cette action au niveau de la loi, c'est que l'euthanasie active implique de donner la mort volontairement. Et donner la mort volontairement est un acte répréhensible par la loi. De même, l'euthanasie active implique l'aide d'une personne extérieure, souvent un médecin. Le code de la déontologie et le serment d'Hippocrate que les médecins sont tenus de respecter disent de manière explicite que les médecins doivent lutter contre la souffrance et la mort et n'ont pas le droit de provoquer directement la mort.
En France, il existe toutefois une loi sur l'euthanasie. Qu'en est-il exactement ?
Cette loi Leonetti ne légalise pas l'euthanasie active. Elle permet par contre au patient, ou dans le cas où il est inapte à s'exprimer, à un représentant de confiance de demander l'arrêt de son traitement, même si cela doit entraîner la mort. La loi Leonetti permet ainsi d'empêcher l'acharnement thérapeutique sur des patients atteints d'infections incurables ou éprouvant une souffrance insupportable. Elle rend aussi obligatoires les soins palliatifs qui permettent d'atténuer la souffrance sans traiter réellement la maladie.
Il semblerait que cette loi ne convienne pas à tout le monde.
En effet, la loi Leonetti présente des ambiguïtés. Par exemple, la loi autorise le médecin à appliquer un traitement destiné à soulager la souffrance, qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger la vie d'un malade en fin terminale avancée ou terminale de maladie. Il est si facile d'injecter un produit dans le but de tuer et de dire ensuite que c'était un effet secondaire. À partir de là, pourquoi ne pas permettre directement l'injection de ces substances ? C'est donc pour cela que la population française n'est pas satisfaite de cette loi. D'ailleurs, certaines associations, telles que l'ADMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité, tentent de changer les choses. En effet, l'ADMD est une association qui milite pour permettre à chacun d'avoir une fin de vie conforme à ses conceptions personnelles de dignité et de liberté. L'association espère obtenir le vote d'une loi légalisant l'euthanasie active. Elle a élaboré un projet de proposition de loi visant à introduire dans le Code de la santé publique le droit à une assistance médicalisée pour mourir. La CCNE, Comité consultatif national d'éthique, a publié son rapport sur l'euthanasie. Il propose quant à lui que l'euthanasie ne soit pas dépénalisée, mais soit au contraire une sorte d'exception à la loi. Ainsi, une commission serait chargée de décider si les mobiles de la demande d'euthanasie sont valables et accorderait au médecin qui la pratiquera une sorte d'immunité qui ferait que son acte ne serait pas condamnable.
Et qu'en est-il des chiffres ?
Eh bien, 79% de la population française est d'accord avec le fait d'être aidé à mourir dans le cas où le malade souffre et est atteint de maladies incurables. En cas d'une demande d'un patient pour mourir, 61% des Français sont d'accord avec le fait que la loi autorise à un médecin d'aider son malade à mourir. Au niveau des médecins, d'après un sondage de Impact Médecin Hebdo en 2000, environ 70% des médecins sont favorables à une tolérance de l'euthanasie, comme le propose le CNNE.
Nous sommes toujours en direct sur Delta FM 90.2 pour l'émission Parole d'éthique. Nous parlons aujourd'hui de l'euthanasie. À suivre, un débat avec Laurence Dutreuil, un membre de l'association ADMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité. Isabelle Mongeary, un médecin du CHU de Poitiers, et maître Laetitia Després, avocat au barreau de Poitiers, sur les conditions sous lesquelles il faudrait légaliser l'euthanasie active. Mais avant, une petite pause musicale avec The Show Must Go On de Queen.
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain.
C'était The Show Must Go On de Queen sur Delta FM 90.2. Nous allons maintenant débattre sur les conditions sous lesquelles l'euthanasie active devrait être légalisée. Avec nous en studio, Laurence Dutreuil, une membre de l'association ADMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité, Isabelle Mongeary, un médecin du CHU de Poitiers, et maître Laetitia Després, avocat au barreau de Poitiers. Tout de suite, écoutons une lecture de la lettre d'une jeune fille ayant perdu sa mère.
Ces objectifs de condamnés ne sont plus les mêmes que ceux que nous, les vivants, proches, famille, amis, pouvons porter. Le malade condamné a perdu l'espoir de guérison, il le sait. Son seul objectif de vie devient de ne pas souffrir, surtout de ne pas souffrir. Tant que l'on garde un espoir de guérison ou de rémission, on se bat contre la mort. Quand on n'a plus cet espoir, on se bat pour ne pas souffrir et ne pas avoir peur. Perdre l'angoisse de passer de l'autre côté de la vie, c'est-à-dire vers la mort, n'est une chose possible que si l'on sait que cela peut se faire dans la douceur, sans souffrance.
Dans ce cas, le patient est conscient. Il choisit de mourir. Mais qu'en est-il lorsque le patient est inconscient et que c'est à la famille et que c'est la famille qui demande l'euthanasie ? Docteur Mongeary, quel est votre point de vue ?
Cela dépend de beaucoup de choses, telles que les chances de réveil, l'intensité du coma dans lequel est le patient, mais aussi du point de vue qui a pu être exprimé par le malade quand il était conscient.
Et vous, maître Després ?
En ce qui me concerne, je suis d'accord avec le principe de l'euthanasie, mais pas dans ce cas-là. Personne ne devrait pouvoir décider de la mort d'une personne à sa place. C'est une décision trop grave pour être prise par une autre personne que celle concernée. Et n'oublions pas que certains patients se réveillent, comme ça a été le cas de cet Américain, Terry Wallis, qui s'est réveillé il y a 3 ans après 20 ans de coma.
Il y a 3 ans, justement, ce genre de réveil est très rare.
D'un point de vue médical, à partir de quand considère-t-on qu'il n'y a plus d'espoir ?
Il y a toujours l'espoir d'une guérison miraculeuse, mais quand l'état végétatif dure plus d'1 an, les chances de retrouver une activité cérébrale sont minimes.
Sans compter que la famille est concernée par cette décision. C'est elle qui vient voir le patient à l'hôpital en sachant qu'il y a peu de chances qu'il se réveille. C'est quelque chose de très dur à vivre et à supporter. Sachant que le patient ne peut pas s'exprimer, la famille devrait avoir le choix.
En supposant que l'euthanasie puisse être demandée par la famille, la loi devrait rendre obligatoire plusieurs entretiens entre la famille et le personnel hospitalier. Et même avec un psychologue pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un coup de tête. Il faut à tout prix éviter les excès.
Je vous propose maintenant de réfléchir à une autre question. Que faire lorsque le patient a une maladie incurable, mais pas mortelle ? Mais avant d'y répondre, la lecture d'une lettre écrite par un malade du sida à sa femme.
Mon amour, je voudrais posément te parler d'un sujet que nous ne pouvons pas aborder ensemble, maintenant que le temps de ma fin se rapproche, car cette idée te fait trop souffrir. Depuis cette saleté de transfusion qui m'a flanqué le sida, j'ai beaucoup réfléchi à ma mort. Je la veux propre. Je demanderai l'euthanasie, qu'on me refusera probablement. Pour moi d'abord et pour vous. Pour moi, c'est facile à comprendre. Je pars serein. Je ne trouve aucune valeur rédemptrice à la souffrance, donc je demande, au moment que je choisirai, qu'on m'abrège en m'octroyant ce qu'il faut pour passer en douceur. Pour vous aussi. J'ai pensé au suicide, et il me reste encore assez de force pour me défenestrer par exemple. Livrer ainsi à de pauvres pompiers un corps écabouillé, affolé des passants, vous imposer la morgue. Entre une mort violente qui vous salirait et une mort propre que m'apporterait un dernier cachet, que j'avalerai en connaissance de cause, y a-t-il à hésiter ?
Alors, votre avis après ce témoignage ?
C'est poignant, c'est vrai, mais la définition propre de l'euthanasie est de mettre fin à une souffrance ou à une agonie prolongée. Peut-on considérer que les malades du sida sont en train d'agoniser ? Dans la plupart des cas, avec les progrès de la médecine, les personnes qui en sont atteintes peuvent vivre encore plusieurs années. Avec des arrangements techniques et des aides à domicile, elles peuvent même vivre chez elles, communiquer et vivre normalement.
Peut-on réellement appeler ça une vie ? Être dépendant des médicaments et des autres en permanence ? Supporter les effets secondaires des médicaments toute sa vie et, si on n'arrive pas à gérer la maladie, se retrouver coupé de la société, de ses amis et ne plus avoir d'activité ? Vous vous imaginez complètement paralysé et vivre toute votre vie en sachant que vous ne pourrez plus jamais serrer votre fils dans ses bras ? Pas étonnant que certains préfèrent demander l'euthanasie.
La science fait des progrès et rien ne nous dit qu'un jour, nous ne saurons pas guérir le cancer et même le sida. Si on leur accorde le droit de mourir, combien de malades mourront alors qu'à quelques années près, ils auraient pu être définitivement guéris ? Pour moi, il faut absolument éviter les excès. Et comme Madame Dutreuil l'a dit, certains patients ont du mal à supporter et gérer leur maladie. Comment être sûr alors qu'ils ne demandent pas l'euthanasie dans un moment de déprime passager ?
La science fait des progrès, c'est vrai, mais rien ne nous dit que nos chercheurs trouveront quelque chose après plusieurs dizaines d'années. La plupart des malades actuels ne verront pas l'aboutissement de ces recherches. Pour ceux dont la souffrance morale est trop forte, pourquoi ne pas leur laisser au moins le droit de choisir ? Ces patients peuvent avoir plusieurs entretiens avec des médecins et des psychologues, comme ça devrait être le cas pour toute demande d'euthanasie, je pense. Ainsi, si ces entretiens sont espacés de plusieurs semaines, voire mois, ces spécialistes différencieront forcément passage à vide de réelles motivations.
Parole d'éthique, questions de société, les secondes du LP2I en parlent. Débat de lycéens sur Delta FM 90.2.
Bien, passons maintenant à une lettre du professeur Schwarzenberg, défenseur du droit à l'euthanasie. Nous débattrons ensuite sur les propos qu'il tient.
Empêcher un malade de souffrir.
Je pense que nous sommes toutes conscientes que son avis sur la légalisation ne nous concerne pas, puisque nous réfléchissons au contraire aux conditions sous lesquelles il faudrait mettre en place cette légalisation. Il serait plus intéressant d'insister sur son dernier propos. Chacun doit interroger sa conscience.
Effectivement, il est important d'en parler, car n'oublions pas que l'euthanasie implique que quelqu'un tue et cette décision difficile ne peut se faire qu'avec l'accord de sa conscience. En tant que médecin, c'est difficile d'accepter de mettre fin à une vie. Au contraire, nous luttons pour la vie. Tous les médecins ne sont pas capables de se résoudre à appuyer sur la seringue et donner la mort.
C'est le même problème pour l'avortement selon la loi. Un médecin n'est pas obligé de le pratiquer, mais il est tenu d'indiquer à sa patiente l'adresse d'un confrère qui acceptera de le faire. Cette solution est tout à fait adaptable dans le cas de l'euthanasie.
Il y a aussi la solution de l'aide au suicide, comme c'est le cas en Suisse. Le médecin fournit tout le matériel nécessaire et explique au patient comment procéder. C'est ensuite à lui d'accomplir l'acte qui lui permettra de mourir. À l'ADMD, nous demandons seulement à ce que le patient puisse mourir dans la dignité. Si celui-ci n'est plus obligé de se suicider avec n'importe quel moyen, cette solution me convient, puisque, même si ce n'est pas le médecin qui accomplit l'acte de tuer, au moins le patient est aidé et sa mort est propre.
En résumé, il faut que les lois soient très précises pour empêcher les débordements.
C'est-à-dire ?
Faire en sorte que n'importe quel dépressif ne puisse pas se voir accorder l'euthanasie. Prendre en compte la souffrance physique et morale du malade, et même ses chances de guérison. Ce sera très dur à mettre en place, car la notion de douleur est propre à chacun. Et en même temps, chaque cas est unique. Il y a tout un tas de paramètres qu'on ne peut pas prendre en compte dans une loi.
Du travail en perspective, donc. Mais n'oublions pas, même si cette loi sera forcément imparfaite, ce serait déjà un énorme progrès et un échappatoire pour certains malades qui ne supportent plus leurs conditions.
Bien, notre émission touche à sa fin. Merci mesdames pour votre présence. Je vous conseille, pour plus de renseignements, de vous référer au site de l'ADMD, www.admd.net, celui du CCNE, www.ccne-éthique.fr. Vous pouvez aussi lire le BT2 numéro 296, où vous trouverez de nombreuses informations sur l'euthanasie. Restez avec nous à l'antenne sur le Delta FM 90.2 pour la prochaine émission de Parole d'éthique.
Je vais commencer par citer Martin Heidegger, dans Acheminement vers la parole, le premier texte s'appelle La parole, et dit ceci. L'être humain parle. Nous parlons éveillé, nous parlons en rêve, nous parlons sans cesse, même quand nous ne proférons aucune parole, et que nous ne faisons qu'écouter ou lire. Nous parlons même si...